ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone, le remue-ménage se calme. La Lune dans vos oreilles de 18h30 jusqu'à 20h en direct. Mais nos émissions continuent ensuite toute la nuit et elles sont rediffusées demain jeudi. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, eh bien, dans quelques secondes, on commence par les informels, les nouvelles sur la pleine lune, et puis Canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, Marjolaine ensuite avec ses coups de cœur. Alors, à tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. Aux États-Unis, le président Clinton repousse de 6 mois la levée de l'interdiction des homosexuels dans l'armée. Il s'agissait d'obtenir l'arrêt des discriminations dont les homosexuels, gays et lesbiennes sont victimes dans l'armée. Le règlement militaire, vieux d'un demi-siècle, impose à tout candidat recrue de faire part de son orientation sexuelle, étant entendu que les homosexuels déclarés ne franchiront pas ce stade. Découverts dans les rangs ou pour une raison ou une autre, décidant de s'afficher comme tels, ils sont immédiatement exclus de l'institution militaire. C'est le sort de quelques centaines de personnes chaque année. Monsieur Clinton voulait mettre un terme à la discrimination en annulant ce règlement militaire. Il n'a pas pu pour cause de révolte sur les bancs du Congrès et au sein de l'armée, où l'on estime que le changement proposé risque de porter atteinte au moral, à la discipline et aux convictions de la majorité de la troupe. Ainsi, la minorité républicaine au Congrès avait fait savoir qu'elle assortirait tout projet de loi déposé par les démocrates pour remettre de l'ordre dans l'économie d'un texte rétablissant l'interdiction des homosexuels dans l'armée. En raison de soutien prévisible d'un certain nombre de parlementaires démocrates à cette manœuvre de blocage, c'était tout le programme économique cher au nouveau président qui était en péril. Quant à la droite religieuse conservatrice, elle a réussi à se mobiliser efficacement pour sauver l'honneur de l'armée. Le général Colin Powell, chef de l'état-major interarmes, a exprimé la crainte que le recrutement ne se tarisse et que par conviction religieuse, des soldats et des officiers de valeur ne quittent l'armée pour ne pas avoir à servir à côté d'homosexuels. Une publication militaire, le Marine Corps Gazette, écrit ainsi que la Bible a un message très clair à propos des homosexuels, ils méritent la mort. Du coup, Clinton a repoussé sa décision en juillet. Toujours Clinton, le président américain, lui, a tenu par contre parole sur la question de l'avortement. La libéralisation décidée par le président suscite déjà de nombreuses manifestations dans le pays. Le président Clinton a donc annulé un certain nombre de restrictions imposées par ses prédécesseurs républicains. Il a notamment décidé un réexamen de l'interdiction d'importer aux États-Unis la pilule abortive, le RU486. Pendant ce temps, environ 75 000 personnes hostiles à l'avortement s'étaient rassemblées à cette occasion près de la Maison-Blanche et ont défilé plus tard dans la journée jusqu'à la Cour suprême. Outre la décision sur la RU486, le président a aboli les restrictions imposées aux cliniques bénéficiant de fonds fédéraux qui pourront désormais donner des conseils en matière d'avortement. Il ne sera en outre plus interdit d'utiliser des tissus fœtaux provenant d'avortements. Les hôpitaux militaires pourront également pratiquer des avortements et les États-Unis pourraient soutenir des programmes étrangers de contrôle des naissances. À la question de savoir quel était le message de Clinton aux manifestants hostiles à l'avortement, son directeur de la communication a déclaré, je cite, « Il respecte leur point de vue, mais il n'est pas d'accord. Il estime qu'il s'agit de décisions qui doivent être laissées aux femmes et de quelque chose qui doit faire l'objet de discussions avec leurs conseillers et d'autres personnes dans le cadre de leur vie privée. » Pendant que Clinton signait ses décrets, la première affaire de son mandat connaissait un nouvel épisode. Vous vous souvenez que l'ex-candidate au poste de ministre de la Justice, Zo Bern, avait dû renoncer à son poste car on avait appris qu'elle avait employé pendant des années un couple de domestiques au noir. Eh bien, ce couple a été retrouvé et les services de l'immigration vont décider prochainement s'ils vont les expulser. Oh non. Pendant ce temps, Mme Zo Bern a dû, elle, payer une amende de 3 000 $ et 12 000 $ d'arriérés de charges sociales. Et bien sûr, elle a dû renoncer au poste de ministre de la Justice. Toujours des nouvelles du côté de la nouvelle présidence américaine. La femme du président va diriger un groupe de travail chargé d'élaborer dans les 100 jours un projet de système national d'assurance maladie. Bill Clinton a décidé de former un groupe de travail chargé de faire des propositions pour doter les Américains d'un système national d'assurance maladie. Et c'est sa femme Hillary qui présidera ce groupe de travail. Il faut rappeler que 36 millions d'Américains sont totalement dépourvus de couverture sociale. Hillary Clinton devient donc la première des First Ladies à se voir confier officiellement une tâche politique. Par contre, elle ne recevra aucune rémunération en raison d'une loi votée dans les années 60 qui interdit au président de nommer un membre de sa famille à des fonctions officielles. C'est donc une nouvelle version du rôle de la ménagère. En Iran, 6 femmes chauffeurs d'autobus ont été embauchées à l'essai par la Société du transport urbain de Téhéran. Une initiative très fortement critiquée dans le journal Jounouri Eslami, cette publication d'inspiration intégriste, estime que c'est, je cite, « piétiner la personnalité des femmes que de leur imposer un travail aussi dur ». Aux États-Unis encore, histoire de 4 adolescentes meurtrières. Ça se passe dans l'Indiana, dans la petite ville de Madison. Une petite fille de 12 ans, Shanda Sharer, est retrouvée morte en janvier 1991. Elle a été assassinée par 4 jeunes femmes, 4 adolescentes de la ville, au terme d'une effroyable expédition punitive. Là, on reprochait à Shanda d'avoir convoité la petite amie de l'une d'entre elles. Les deux principales accusées ont été condamnées à chacune à 60 ans de prison. Melinda Lovelace, qui a 17 ans, Laurie Taquette, 18 ans, viennent donc d'être condamnées à 60 ans de prison. Quant aux deux autres, Tony Lawrence et Hope Ripley, qui ont toutes les deux 15 ans, elles vont être jugées sous peu pour la participation à ce même crime, le meurtre de Shanda Sharer, à qui on reprochait, les adolescentes reprochaient d'avoir piqué la girlfriend de l'une d'elles. Rapport officiel publié à Bruxelles. Bruxelles rend donc son verdict. Au moins 20 000 femmes ont été violées en Bosnie par les soldats serbes. Ce rapport, Warburton, considère que le viol a été employé comme un moyen délibéré au service d'intérêts stratégiques. Au moins 20 000 femmes, en grande majorité musulmanes, ont été donc violées en Bosnie-Herzégovine. Plus d'un millier se trouvent enceintes contre leur gré. C'est ce qu'indique ce rapport qui a été rendu hier public par les ministres des Affaires étrangères des 12 réunis à Bruxelles. Ce rapport avait été demandé lors du sommet européen d'Édimbourg en décembre. Les nombreux viols ont été commis avec l'intention délibérée de rendre des femmes enceintes et de les retenir prisonnières jusqu'au terme de leur grossesse comme forme supplémentaire d'humiliation et pour qu'elles se rappellent constamment cette humiliation. Pourtant, le nombre des grossesses n'est pas connu, il atteindrait un millier, note le rapport, mais il faut tenir compte, bien sûr, que beaucoup de femmes ont essayé d'avorter de peur d'être rejetées par leur communauté et qu'il est de ce fait difficile d'estimer le nombre des naissances qui résulteraient de ces viols. Les ministres des Affaires étrangères des 12 ont décidé, à la lumière de ce rapport, de prendre contact avec les parties prenantes au conflit pour leur faire part très clairement de la nature incontestable des preuves et de la nécessité impérative de mettre fin à ces pratiques horrifiantes. Fin de citation. Quant à une association de Bosniaque qui a été mise sur pied par le gouvernement bosniaque, la commission d'enquête sur les crimes de guerre, elle dénonce, elle, 30 000 viols sur des femmes âgées de 6 à 70 ans. Sur cette question d'ailleurs des viols, en Suisse, depuis décembre, des femmes se réunissent deux fois par mois pour protester contre ces viols. À Genève, c'est l'organisation des Femmes en Noir, nous en avons rencontré une qui nous explique ce qu'est ce groupe et quelle est leur action.
Les Femmes en Noir, il faut bien comprendre, ce n'est pas un nouveau groupe. C'est en fait un rassemblement de groupes et de nombreux groupes et de personnes aussi individuelles qui viennent complètement en leur nom propre. On se rend compte que la guerre, elle risque de durer longtemps. Les négociations n'ont rien amené. Et d'après toutes les organisations internationales, toutes les informations qui ont pu être recueillies, il y a beaucoup d'aide qui est offerte par les organisations humanitaires. Mais en fait, la guerre continue et les femmes n'ont pas du tout encore accédé n'ont pas pu vraiment sortir de Bosnie. À Zagreb, elles ne sont pas arrivées. Donc, ce qu'on peut faire vraiment, c'est essayer quand même de maintenir la pression la plus suivie pour protester contre la guerre et contre ces violences. C'est une action très, très pénible parce qu'on se sent toutes très impuissantes. Mais on demande quand même à chacune de venir avec un peu d'humilité, d'être vraiment silencieuse, de ne pas essayer particulièrement de faire de déclarations, d'en rester à ce minimum sur lequel on est toutes d'accord,
d'essayer
de tenir aussi longtemps que les femmes ont tenu en Argentine et... finalement de
premier et dernier jeudi de chaque mois. Et puis
Le but de ces actions, c'est de faire pression à la fois sur le gouvernement suisse et à la fois une pression morale internationale.
C'est déjà fait, il y a eu une pluie de lettres qui sont tombées et Felber a quand même dû dire publiquement qu'il était écœuré et qu'il dénonçait les violences faites contre les femmes. Donc je crois qu'il y a divers axes possibles, il y a nos propres autorités puis qu'elles soient plus actives. Sur la scène internationale, il y a les organisations internationales, le CICR, il y a les conventions de Genève, il y a différentes institutions à qui on peut s'adresser pour dire ça. On est dans un lieu bien, bien placé pour cela, et pourtant ça se passe dans toutes les grandes villes de Suisse, et je présume dans beaucoup de grandes villes d'Europe également. Contact avec Lausanne, avec Berne, mais aussi avec Paris, avec Toulouse, avec d'autres villes.
Et l'idée, c'est donc d'être là, une présence régulière.
Alors, c'est une présence silencieuse de 6h15 à 7h moins le quart, en noir, avec des bougies. Et on demande vraiment à tous les groupes de se mettre tous au même niveau et de ne pas chacun essayer de tirer la couverture vers soi pour créer un événement en son nom. Les Femmes en Noir, c'est tout le monde, c'est nous toutes, c'est nous tous qui sommes écœurés et qui voulons protester. Protester contre les viols, les faire reconnaître comme crimes contre l'humanité, et aussi d'essayer d'avoir un rôle sur l'ouverture de la Suisse vers les réfugiés, et non pas sa fermeture évolutive, comme on a vu ces derniers temps. Dans nos pays, comme en Allemagne également, les critères face aux réfugiés sont plutôt en train de se restreindre que de s'ouvrir. Et ça, c'est une conception qui est vraiment dramatique dans une période comme ça. Alors, nous nous donnons donc rendez-vous le premier et le troisième jeudi de chaque mois, de 6h15 à 7h moins le quart, à la place de la Fusterie, en noir.
Et tout repeindre en blanc.
Alors, le prochain rendez-vous, c'est donc demain, jeudi 4 février, à 18h, à la place de la Fusterie. À Lausanne aussi, les femmes se réunissent, se passe à la place de la Palue, qui donc... il y a ce qu'elles appellent un cercle de l'espoir, là aussi les premiers et les troisièmes jeudis du mois, de 17h30 à 19h, et cela jusqu'à la fin des hostilités dans l'ex-Yougoslavie. Les femmes de la Palue invitent également toutes les femmes à signer leur pétition pour que les viols soient explicitement déclarés crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qu'ils soient jugés par la Cour internationale de justice. Elles font également savoir que plusieurs d'entre elles seront présentes à la gare de Lausanne tous les vendredis de 11h30 à 13h pour recueillir les colis destinés destinée aux réfugiés de la région de Zagreb. Elles disent aussi qu'elles ont connaissance d'un camp où les enfants n'ont rien pour jouer. Vous pouvez téléphoner pour d'autres renseignements ou pour savoir comment faire vos colis à Thérèse Moreau au 021 29 76 26, je répète 021 29 76 26, ou à Anne-Marie Schaufbacher de Varennes au 021 691 59 15, 021 691 59 15. Toujours aux USA, le football fait du mal aux femmes. Et oui, tous les soirs de grands matchs de foot, les femmes américaines se font tabasser par leurs partenaires, ou en tout cas bien plus souvent que les autres soirs. Le dernier grand match, la dernière grande rencontre de football qui a eu lieu la semaine dernière a été sanglante sur le terrain, mais surtout dans les chaumières. Ainsi à Dallas, d'après la police, le soir du match, une femme aurait été battue toutes les 15 secondes dans la ville. Les hôpitaux, les postes de police et les centres de femmes battues se remplissent ces soirs-là. Les prétextes pour taper sont variés. L'injure la plus forte, c'est bien sûr de vouloir changer de chaîne de télé au milieu du match. Ça ne pardonne pas. Les supporters de l'équipe vainqueur tapent tout autant, si ce n'est plus, que ceux de l'équipe perdante. Ils ont vu pendant tout le match que la violence et l'agressivité étaient très bien récompensées. En France, les centres d'interruption volontaire de grossesse demandent des nouveaux statuts pour obtenir une meilleure application de la loi Veil. Les difficultés que rencontrent les femmes pour avorter restent nombreuses. Réunis, les centres d'interruption volontaire de grossesse et de contraception, ainsi que d'autres médecins, ont réclamé des nouveaux statuts pour les centres en vue de favoriser une meilleure application de la loi Veil. Pour vous donner quelques exemples, à l'hôpital Beaujon à Paris, le centre refuse les avortements après 8 semaines de grossesse, alors que la loi les autorise jusqu'à 10 semaines. Dans d'autres villes, à Toulouse, tout concourt à ce que les femmes se retournent vers le privé, délai d'attente très long, nombre de semaines de grossesse extrêmement limité. À Béziers, le centre d'avortement et de contraception de l'hôpital, après 17 ans d'existence, n'a toujours qu'un local préfabriqué, exigu, dont les cloisons trop minces interdisent toute conversation privée. Tous ces exemples cités ne laissent guère de doute. 18 ans après son vote au Parlement, la loi Veil a toujours du mal à être appliquée et pour une femme qui désire se faire avorter, trouver un établissement hospitalier relève de la course d'obstacles. Ce qui fait que beaucoup de gens se retournent vers le privé. Un tiers des avortements se font dans le secteur public et 2/3 dans le privé. Et quand le privé prend le relais du public, c'est pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Ainsi, un centre d'avortement, le centre de Louis Mourier à Paris, a eu assez de la remise en cause constante des postes des vacataires, du refus de reconnaître le travail accompli en matière de contraception et de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. Finalement, ont mis le feu aux poudres et depuis le 4 novembre, ils sont en grève. Ils réclament aujourd'hui l'autonomie des centres d'avortement avec la création de postes de médecins hospitaliers, un renforcement des activités de prévention et de dépistage des maladies vénériennes et une réelle possibilité d'informer les femmes et une contribution à la recherche sur la stérilité. Le ministre de la Santé reconnaît que le système actuel est loin d'être parfait. En France, procès contre le harcèlement sexuel, victoire d'une jeune femme. Son chef a été condamné. Françoise, cette jeune femme a donc fait plier un cadre d'une agence de pub, la DDB. Il s'agit de Luc Taon qui est poursuivi pour attentat à la pudeur et condamné à 10 000 francs d'amende et 8 000 francs de dommages et intérêts pour voie de fait volontaire avec préméditation. Puisque la loi sur le harcèlement sexuel qui est prévue dans le nouveau code attend toujours ses décrets d'application. L'affaire a commencé en 1992 où la jeune femme est engagée dans l'agence DDB où tout le monde est très cool, tout le monde se tutoie. L'agence réclame des collaborateurs, je cite, infatigables, affichant une certaine irrévérence envers l'ordre établi, déterminé et enthousiaste. Aucun problème pour Françoise, mais qui se met à travailler avec Luc Taon qui commence à la poursuivre de ses assiduités après quelques déjeuners, ses débosés volés, la main dans les cheveux, des petits mots où il écrit « Je t'aime, mais surtout, si tu étais gentil, tu progresserais plus vite, n'est-ce pas, Nana ?» Finalement, devant témoin, Luc Taon revient à la charge. Devant témoin, toujours, Françoise le traite d'ordure. La lettre de licenciement ne se fait pas attendre, accompagnée d'une offre imprévue de quelques jours de vacances. En guise de motif de licenciement, DDB avance, je cite, « un comportement agressif envers des tiers qui s'est traduit par un comportement injurieux ». L'agence a donc décidé de couvrir son cadre complètement. Françoise porte alors plainte et vient donc de gagner son procès. Mais maintenant, elle se retrouve sans travail, au risque d'affronter un voisinage moqueur, pas très compréhensif, au risque aussi donc de voir ses demandes d'emploi auprès des autres agences de publicité de la région rester sans réponse. Toujours sur la question du harcèlement sexuel, à Genève, on attend toujours la réponse du Conseil d'État en ce qui concerne le docteur Duboulot, accusé de harcèlement sexuel par ses employées collaboratrices du service de santé de l'État de Genève. En Suisse, les féministes de Zurich ne sont pas du tout contentes. Les pissoirs pour hommes sont gratuits, tandis que le prix des toilettes publiques pour femmes a augmenté de 50 centimes à 1 franc. Le département de la santé et de la ville a expliqué que l'augmentation ne pouvait pas se faire sur des centimes. C'était impossible de prévoir de mettre 85 centimes, alors on est passé à 1 franc. Bien sûr, on n'explique pas la gratuité chez les hommes. Pour le service, le tarif s'applique à la location d'une cabine. Ce n'est nullement une discrimination sexiste, car, explique-t-on, si les pissoirs étaient payantes, les hommes iraient se soulager ailleurs que dans les WC. À Genève, les libéraux refusent leur soutien à Christiane Brunner en tant que peut-être future conseillère fédérale et sèment donc la pagaille. Ce n'est pas par la défiance envers Christiane Brunner, prétend le président du Parti libéral, Michel Balestra. Mais c'est une question de cohérence. Nous ne pouvons pas soutenir le Parti socialiste dont nous combattons les idées politiques à longueur d'année, que ce soit à Genève ou à Berne. Le Parti libéral a donc justifié ainsi son refus de soutenir Christiane Brunner dans sa course au Conseil fédéral, une décision prise à la majorité. Le nom libéral jette un sacré pavé dans la mare politique genevoise. Il faut rappeler que tous les partis ont surmonté leurs divergences pour faire l'union sacrée derrière Christiane Brunner. L'enjeu, permettre à Genève de retrouver un siège au Conseil fédéral après plus de 70 ans d'exclusion. Rappelons que les libéraux neuchâtelois, eux, font bloc derrière le socialiste Francis Mathey. Mais il ne faut pas faire d'amalgame, prétend toujours Michel Balestra. Ce n'est pas parce qu'on est femme et genevoise que tout le monde doit battre dès demain. Et vive l'Europe ! La firme américaine d'aspirateurs ouverts a donc décidé de transporter sa production de la France à l'Écosse et fermer ainsi l'ensemble de la production de l'usine de Longwick près de Dijon. Il s'agit donc d'une suppression de 600 emplois à Longwick contre la création de 400 emplois en Écosse. Pour lesquels Ouvert a pu recevoir des aides communautaires de la part de Bruxelles pour financer donc ces 400 créations d'emplois en Écosse. L'affaire Ouvert est donc un dossier hautement européen. Le groupe américain a choisi l'Écosse. C'est au terme d'une incroyable marchandage transfrontalière et d'un véritable dumping social. Pour tenir face à la concurrence, il s'agissait bien sûr d'appliquer la recette habituelle, restructurée. Ouvert possède est réparti en trois sites en Europe, en France, en Écosse et au Pays des Galles. Il décide finalement de regrouper toute la production dans un seul pays, choisir la France ou bien l'Écosse. commence alors un véritable marchandage. On arrive en France pour dire, je cite, « L'Écosse nous propose d'importantes subventions. Il faut que la France en fasse. Si Longvik en France veut avoir une chance de l'emporter, fait savoir en substance la direction de Hoover. Les Français s'exécutent et fin décembre, un plan financier de 75 millions est bouclé. » En fait, Hoover s'est servi de ses promesses pour faire monter les enchères en Écosse. Cette fois, il ne s'agit pas d'obtenir des aides supplémentaires. La direction de l'entreprise demande au syndicat britannique d'importantes concessions. Et le jeudi 21 janvier, Hoover soumet au syndicat un accord à prendre ou à laisser avec réponse le lendemain à midi. En toutes lettres, on y lit qu'en échange du transfert de la production de France en Écosse, de création donc d'emplois qui en vont découler, le personnage s'engage à, je cite, « renoncer aux arrêts de travail intempestifs, réduire leur représentation syndicale, accepter la redéfinition des catégories, mise en concurrence permanente de la fabrication et de l'assemblage avec les offres des sous-traitants. Et puis, bien sûr, les salariés acceptent un gel des salaires pendant un an et l'introduction des caméras vidéo là où cela sera nécessaire. Et vive l'Europe !» Une jeune prodige hongroise, Judith Polgár, de 16 ans, a battu lundi soir l'ancien champion du monde d'échecs franco-russe, Boris Spassky, de 55 ans, dans la deuxième partie de leur match d'exhibition disputé à Budapest. Et pour terminer très rapidement, je vais distribuer quelques cochons. Premier cochon au sexiste, au Parti socialiste valaisan, qui en effet, dans son organe de presse, Le Peuple valaisan, appelle à la sérénité et à la retenue en ce qui concerne l'élection au Conseil fédéral. De conclure par une belle phrase, « Dans le rituel helvétique, l'élection d'un conseiller fédéral n'a rien à voir avec un concours de beauté. » Et paf pour Christiane Brunner. Autre cochon, ça je ne sais pas vraiment comment le citer, mais ça ne fait rien. Ça se passe à Westminster, en Angleterre. L'administrateur de la cathédrale de Westminster, donc à Londres, a fait distribuer des tracts pour inciter les visiteurs à ne pas donner d'argent aux nombreux mendiants qui côtoient l'édifice. Si vous leur donnez de l'argent, vous pourriez les inciter à devenir dépendants de l'alcool ou de la drogue, a-t-il dit. Et pour terminer, un cochon à Benetton avec sa nouvelle campagne d'affichage. On voit M. Benetton tout nu, couvert par ses graffitis où il est écrit « Je veux récupérer mes habits ». De quoi s'agit-il ? D'une grande campagne lancée par Benetton. Il va reprendre vos vieux habits. Et oui, il les récupère pour les distribuer aux pauvres. Alors vous allez, avec votre petit sac de vieille, vous videz vos armoires, vous amenez tout ça chez Benetton qui va les récupérer pour les pauvres et puis vous en achetez des nouveaux. C'est bien ça, hein ? C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Dans quelques instants, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune et puis les rendez-vous et coups de cœur de Marjolaine. Can you?